Et nous continuons donc ce que nous avons commencé la semaine passée, une petite série sur les livres, le livre des Proverbes. Nous sommes en Proverbe, nous avons commencé Proverbe 1, nous étions dans les versets 1 à 7 la fois passée. Là nous continuons pour deux versets, il y a des lectures plus grandes, des lectures plus courtes. Là ça fait un tout, les versets 8 à 9. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Seigneur, à qui rions-nous d'autre qu'à toi, tu es les paroles de la vie éternelle. Amen. Donc, nous avons vu dans ces proverbes une instruction pour la sagesse. Et il n'est pas nécessaire pour acquérir la sagesse de courir les océans, les mers, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans le cadre, nous disent ces versets, c'est dans le cadre de la maison, c'est dans le cadre du foyer que commence pour le jeune l'école de la sagesse. Bien sûr, tout commence, on l'a vu la fois passée, par la crainte du Seigneur, par une relation profonde avec le Dieu vivant. Mais ensuite, eh bien, pas besoin de courir n'importe où, c'est dans la vie quotidienne. Et là, donc, dans le cadre de la maison, du foyer, que commence l'école de la sagesse. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, c'est un gracieux ruban pour ta tête, des colliers pour ton cou. Alors, les premiers mots de ces versets font certainement réagir, on va dire, l'occidental du XXe siècle. On dit, mais mon fils, écoute, mon fils, et pourquoi pas aussi ma fille. Alors, il faut se rappeler que les maîtres s'adressaient en ces termes à leurs disciples. On voit ça dans toutes les Bibles annotées. C'est un terme utilisé par des maîtres, des enseignants, à leurs disciples, mon fils. Et donc, ce n'est pas forcément ici un père qui s'adresse à son fils, mais ça peut être un enseignant, un maître de sagesse à ses disciples. En tout cas, le livre des Proverbes concerne tout le monde. Il concerne les hommes, il concerne les femmes, il concerne ceux qui n'ont pas de sagesse, même ceux qui en ont déjà beaucoup, on l'a vu, il concerne tout le monde. Et il concerne surtout celui ou celle qui veut écouter Dieu, qui veut se mettre à son école, qui veut être son disciple. Et on se rappelle que dans la Bible, le disciple, c'est celui qui se met au pied d'un maître pour écouter un enseignement. Et c'est celui aussi qui regarde faire quelqu'un pour imiter son exemple. Donc c'est cette attitude-là que, dès le début de ces versets, nous incite, c'est cette attitude-là que nous incite ces versets. Alors écoute, mon fils, l'instruction de ton père et de ta mère, il est dit. Notons que la mère n'est pas oubliée. Alors il faudrait faire une étude, mais c'est facile, je crois, à démontrer que les lois perses, par exemple, les lois romaines, n'auraient pas parlé comme ça, pour rien au monde. Le père avait toute autorité, une autorité dictatoriale sur toute sa famille. La femme était considérée comme une génitrice, c'est tout. Et ici, donc, la mère n'est pas oubliée, contrairement aux lois perses et romaines. Son enseignement est d'ailleurs mis sur le même niveau que l'instruction du père. Donc l'éducation des enfants, bibliquement parlant, se fait par le père, par la mère, par les parents. C'est fondamental. Alors que signifient ces versets? Il y aurait toutes sortes de fausses pistes si on n'avait que ces versets dans la Bible, si on n'avait pas les autres versets de la Bible, et si on n'était pas invité à regarder toujours au contexte. Alors que signifient ces versets? Sommes-nous invités à obéir aux parents à tout âge? À 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, puisqu'on vit de plus en plus vieux. On peut avoir 80 ans et avoir des parents en bonne santé. Est-ce que ça veut dire ça? Et que faire lorsque les parents en question manquent de sagesse? Ça a toujours existé et aujourd'hui ça existe peut-être encore plus. Aux infos, on entend parler d'enfants battus, d'enfants exploités. Alors, est-ce que ces versets n'encouragent pas ces enfants à se soumettre sans rien dire, sans rien faire, au risque d'être maltraités et d'encourager la maltraitance? Alors, pour répondre à tout ça, il faut rappeler qu'il faut toujours mettre, comme je l'ai dit, ces versets dans le contexte de l'époque. Ce livre a été écrit dans un contexte juif, un contexte où les parents devaient instruire leurs enfants selon les préceptes divins, selon les préceptes de la Torah, les préceptes enseignés dans la parole écrite et révélée par le Seigneur. Donc ce verset ne demande pas aux enfants d'obéir aveuglément aux parents, quoi qu'ils ordonnent, quoi qu'ils fassent, et à n'importe quel prix. Non, il n'y a jamais d'obéissance aveugle dans les Écritures, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Et puis, il faut rappeler que les instructions bibliques ne nous dispensent pas d'un peu de bon sens. Nous sommes appelés à respecter l'esprit de la loi, et non pas la lettre. C'est ce que Jésus mettra en avant dans son sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7 de Matthieu. Alors, écoute l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Il me semble que ces versets exhortent les enfants à écouter les parents, notamment et surtout en ce qui concerne l'enseignement sur Dieu, lorsqu'ils parlent sur Dieu à partir de la parole de Dieu. Et le mot enseignement, ici, est Torah. Donc, ça désigne les 5 premiers livres de la Bible, mais ça désigne aussi toute la Bible en tant qu'enseignement donné par Dieu. Et donc, cet enseignement, c'est ce que les parents sont appelés à enseigner à leurs enfants. Donc, si nous replaçons cette exhortation dans le contexte biblique, comme on l'a dit, les parents avaient le devoir d'instruire leurs enfants selon des directives bien particulières, non pas selon leur envie ou selon leur caprice du moment, mais selon la volonté de Dieu révélée dans sa parole. On pourrait dire, pour paraphraser, caprice, c'est fini. Et donc, en Deutéronome 6, versets 20 à 25, il y a un passage qui concerne la Pâque. Et nous avons donc un exemple concret avec l'enseignement de la Pâque. Je lis. « Lorsque demain ton fils te demandera, mais que signifient ces déclarations, ces prescriptions, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous a commandées ? Alors tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. L'Éternel a opéré sous nos yeux des signes et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon, contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses prescriptions, de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a commandé. » Ça, c'est donc en Deutéronome 6. Et puis le psaume 78, par exemple, dans les versets 3 à 4, contient lui aussi cette allusion à l'enseignement des parents. Le psaume 78, c'est un long psaume qui rappelle toute l'histoire d'Israël et qui commence ainsi. « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. » Alors, il me semble que ces versets du livre des Proverbes rappellent à la fois le rôle des parents et celui des enfants. Le rôle des parents, celui d'instruire. Le rôle des enfants, celui de s'instruire. Et donc, s'instruire sur ce que Dieu a fait pour son peuple, à partir de cette base-là. Alors, nous vivons dans une société où l'éducation nationale se charge d'instruire nos enfants et veut de plus en plus les instruire quasiment seuls. Et il est bon de se souvenir que pour Dieu, la famille est aussi un lieu d'enseignement. Nous sortons peu à peu d'une période de confinement, où parfois l'école a été fermée, où les parents ont été très sollicités par les professeurs pour instruire leurs enfants d'une façon ou d'une autre. Et cela peut susciter des réflexions, des interrogations de toutes sortes. Mais pour le croyant, il ne s'agit pas simplement de l'enseignement du français, hein, ou d'aider à l'enseignement du français ou des mathématiques. Il s'agit pour les parents d'instruire nos enfants selon la vision biblique du monde. Et ça, ça appartient authentiquement aux parents chrétiens. C'est aux parents en premier qu'il revient de guider leur progéniture sur le chemin de la vie. S'ils ne le font pas, d'autres le feront, et pas pour le chemin de la vie. Et c'est d'abord sur le fondement de ce qui se dit ou se fait à la maison que l'enfant va se structurer et apprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais pour sa vie. Qu'il apprendra aussi les principes moraux inspirés de l'enseignement révélé par la Bible et les priorités d'une famille, d'un croyant. Donc nous ne sommes pas des parents parfaits, bien sûr, nous ne serons jamais. Mais reconnaître qu'on n'est pas parfait, cela aussi est une forme d'humilité, une manière pour nous parents de pointer le regard de nos enfants vers quelqu'un de plus grand que nous, notre Créateur, notre Père Céleste, qui lui est parfait. Et là aussi, c'est un des plus grands enseignements que nous pouvons transmettre. Alors comment aider les jeunes à ne pas prendre le mauvais chemin? On en parlera une autre semaine dans la suite du livre des Proverbes, mais c'est tout d'abord en les élevant dans une certaine discipline, bien sûr, en les avertissant selon le Seigneur, Éphésiens 6, 4, puis en leur procurant de bonnes compagnies, ça aussi, 1 Corinthiens 15, 33, en leur donnant envie de prier, en étant des exemples aussi, surtout, en particulier dans la vie de tous les jours, dans la vie familiale. Tout ça, c'est un ensemble. Mais l'exemple est très important. Nos actes parlent plus fort que les paroles. Et il faut retenir ça, il faut se passer ça en boucle. Si les enfants voient chez leurs parents un profond respect, d'abord, de Dieu, une dépendance vis-à-vis de Dieu, malgré leurs insuffisances et leurs infirmités, ils seront incités à reproduire cette attitude. Lorsque nos enfants nous voient aussi prier, lire la Bible, aller à l'école, aller à l'église, je veux dire, être engagés dans des services et au service des autres en toute humilité, prendre du temps pour notre prochain, donner une partie de nos revenus pour les œuvres de Dieu. Donc, prier avec eux, lire avec eux des histoires de la Bible. Eh bien, tout cela est aussi une manière d'instruire nos enfants dans les valeurs bibliques, dans les voies du Seigneur. Il ne faudrait pas oublier autre chose. Il n'y a pas que ça. Dans les livres des Proverbes, on verra, on parle beaucoup de la vie courante, de la vie professionnelle, des biens matériels, de l'usage de la parole. Et c'est aussi lorsque nos enfants voient notre conduite dans la vie professionnelle. C'est quand ils voient notre conduite dans la gestion pratique des biens matériels, lorsqu'ils voient l'usage que nous faisons de la parole, parce que les enfants entendent tout, on ne peut rien cacher. Eh bien, c'est aussi à ce moment-là qu'ils seront instruits. Et donc, voilà, trois petits points. Alors, n'oublions pas que ces versets des Proverbes s'adressent à nous comme étant des fils et des filles. Si nous ne sommes pas tous parents, nous sommes tous des fils et des filles, nous sommes tous des enfants. Et des enfants qui sont invités à respecter leurs parents, s'ils sont encore en vie. Des enfants qui ont des parents biologiques, mais aussi, s'ils ne les connaissent pas, ils ont un Créateur suprême, qui est notre parent suprême. Et en tant qu'enfants de Dieu, en plus, rachetés par le Seigneur Jésus, eh bien, nous sommes invités à regarder les merveilles et les œuvres de Dieu à travers l'enseignement chrétien de nos parents, reçu de nos parents. Et pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cet enseignement reçu par des parents chrétiens, eh bien, nous l'avons reçu à travers l'enseignement d'autres chrétiens, de témoins qui nous ont précédés et qui sont comme des parents spirituels. Alors, nous sommes tous concernés, tous invités, là aussi, à marcher en disciples du Seigneur et à nous mettre à sa suite. Alors, ce passage concerne aussi, contient aussi un message d'espérance. Selon l'auteur des Proverbes, cette instruction sera un gracieux ruban pour ta tête, ce seront des colliers pour ton cou. Voilà. Alors, je crois que ça veut dire que marcher avec une certaine sagesse parentale, hein, faire des pas dans la sagesse parentale, eh bien, donnera une vie intérieure paisible. Si on regarde le livre de Timothée, l'épître à Timothée, on voit que l'Écriture compare une vie intérieure paisible à un collier, hein, à l'image des bijoux, hein, qu'aiment porter les hommes et les femmes, hein, pour donner de la grâce à leur cou, au port de leur tête. Donc il serait dommage d'oublier que l'enseignement essentiel de ce passage concerne l'esprit doux et paisible, hein, la vie intérieure, et non les bijoux et les ornements extérieurs. Ce sera un gracieux ruban pour ta tête, ce seront des colliers pour ton cou. C'est une manière de dire que cet enseignement est précieux, hein, plus précieux, hein, que tout l'héritage qu'on pouvait, hein, souvent emporter son héritage sur soi aussi, hein, et à l'époque. Hein. C'est le plus grand héritage et c'est plus précieux que tout. Et puis ça nous impacte et ça nous suit tout au long de notre vie, hein, comme quelque chose qu'on a reçu et qu'on porte sur soi. Hein. Mais ça nous donne, et donc ce passage ne nous donne pas forcément, suivre la sagesse de Dieu ne nous donne pas forcément des ornements d'or, hein, mais la grâce qui émane, mais ça nous donne une grâce, hein, une grâce qui émane d'une paix authentique. Hein, ça nous donne l'amour, la confiance, la douceur, et tout cela donne au visage une beauté particulière. Hein. On a tous rencontré des gens qui n'étaient pas particulièrement beaux, hein, mais qui avaient en eux un esprit doux et paisible, une réelle beauté qui venait de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Hein. Et ça, ce n'est pas du chiqué, ça ne se reproduit pas comme on veut. Hein. C'est une œuvre profonde qui vient de Dieu, hein, et qui est perceptible jusque dans le port de la tête, on va dire. Hein. Donc, cherchons à être parés de cette beauté-là. Hein. De cette beauté-là, de cette beauté intérieure. Et c'est la récompense, nous dit ce passage. Hein. C'est le fruit naturel de ceux qui marchent dans cette sagesse parentale. Donc cette vie intérieure est paisible, paisible, est donnée à ceux qui font des choix sages dans leur quotidien, chaque jour. Et ce sont des choix qui peuvent être des combats, hein, dans notre vie d'aujourd'hui. C'est un combat de marcher dans la sagesse. Et les choix sont parfois difficiles. Ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup d'attachement à la vérité de Dieu. Ce sont des choix sages qui sont vécus avec réflexion, hein, devant Dieu, mais aussi dans la communion de l'Église. Hein, nous ne faisons pas ces choix tout seuls. Nous sommes exhortés, consolés, avertis par les autres chrétiens. Et nous exhortons les uns les autres à tenir, hein, et à rendre un bon témoignage dans ce domaine. Cette sagesse, cette vie intérieure qui vient de cette sagesse de Dieu, n'est pas la beauté de ce monde, on l'a dit. Mais je crois que c'est une beauté que même le monde peut connaître, hein, peut envier, hein, peut voir à certains moments, hein, et qui peut donner à nos contemporains envie, hein, d'aller plus loin. En tout cas, j'en arrive à la conclusion de ce court passage, mais passage savoureux. Eh bien, voilà, je l'ai noté pour qu'on n'en perde pas un poil. Hein. Ce qui émane de nos fils et de nos filles est pour une grande part ce qu'ils ont vu et appris de leurs parents. Bon, on l'a dit. Mais il faut ajouter aussi, hein, c'est là ma conclusion, hein, que Dieu pardonne et comble ce qui a manqué dans l'éducation que nous leur avons donnée. Amen.